Toc, toc, toc. Tout d'abord, Merle Cassidy crut entendre ce bruit en rêve. Un de ces cauchemars dans lesquels son beau-père s'apprêtait à lui filer une raclée. Ce salopard chauve avait une manière bien à lui de donner des petits coups secs sur la table de la cuisine. D'abord avec ses jointures, puis le poing entier, pendant qu'il posait les questions préliminaires qui conduisaient à la correction du soir.
« Où tu étais ?»«
À quoi ça sert que tu portes une montre si tu es toujours en retard pour dîner ?»« Pourquoi tu n'aides jamais ta mère ?» Pourquoi tu prends la peine de rapporter tous ces bouquins à la maison puisque tu fais jamais tes putains de devoirs ?
Sa mère tentait parfois de protester, mais il l'ignorait. Et si elle essayait de s'interposer, il la repoussait. Puis le poing qui martelait la table de plus en plus violemment s'abattait sur Merle. Toc, toc, toc. Merle ouvrit les yeux pour fuir ce rêve. Et il n'eut qu'une fraction de seconde pour savourer l'ironie de la chose. Il se trouvait à 2500 kilomètres de ce salopard brutal, 2500 au minimum, et en même temps, pas plus éloigné qu'une nuit de sommeil. Bien qu'il n'ait pas profité d'une nuit entière de sommeil, cela lui arrivait rarement depuis qu'il avait fugué. Toc, toc, toc. C'était un flic qui tapait avec sa matraque, patiemment. Maintenant, sa main mimait une manivelle, baissait la vitre. Pendant un moment, Merle ne sut plus où il était. Mais en voyant à travers le pare-brise le supermarché qui se dressait, menaçant, sur un immense parking presque désert, tout lui revint d'un coup. El Paso. Mais il était à El Paso. La Buick qu'il conduisait était presque à court de carburant, et lui presque à court d'argent. Il s'était arrêté sur le parking du Walmart Supercenter pour s'offrir quelques heures de sommeil. Peut-être qu'au matin, il saurait quoi faire ensuite. Maintenant, il se disait que tout allait s'arrêter là. Toc, toc, toc. Il baissa sa vitre.
Bonjour, monsieur l'agent. Il était tard, alors je me suis arrêté pour dormir un peu. Je pensais que j'avais le droit de me garer ici. Si j'ai eu tort, je suis désolé.
Oh, oh. Admirable, dit le flic.
Et en le voyant sourire, Merle eut un regain d'espoir. C'était un sourire chaleureux.
Il y a un tas de gens qui en font autant, mais ils n'ont pas l'air d'avoir 14 ans.
J'en ai 18. Je suis petit pour mon âge.
Merle éprouvait une immense lassitude, qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil accumulé au cours de ces dernières semaines.
Et moi, on me prend sans cesse pour Tom Hanks, rétorqua le policier. Des fois même, on me demande un autographe. Montre-moi ton permis de conduire et les papiers du véhicule.
Encore un dernier effort. Aussi faible que l'ultime tressaillement du pied d'un mourant.
Ils étaient dans ma veste. Quelqu'un me l'a volé pendant que j'étais aux toilettes, au McDo.
Et tu viens d'où ?
Phoenix,
répondit Merle sans conviction.
Alors, comment ça se fait que ce bijou ait des plaques de l'Oklahoma ?
Merle ne dit rien. Il était à court de réponse.
Descends de voiture, mon gars. Et même si t'as l'air aussi dangereux qu'un petit chien jaune qui chie en pleine tempête, garde tes mains bien en vue.
Merle descendit de voiture sans trop de regrets. Il avait fait une bonne virée. Plus que ça, même, quand on y réfléchissait. Une virée miraculeuse. Il aurait pu se faire arrêter une dizaine de fois depuis qu'il était parti de chez lui fin avril. Aujourd'hui, c'était chose faite. Et alors, où voulait-il aller, de toute façon ? Nulle part, n'importe où. Loin de ce salopard chauve.
Comment tu t'appelles, fiston ?
Merle Cassidy. Merle pour Merlin.
Quelques clients matinaux les regardèrent, puis passèrent leur chemin pour pénétrer dans le monde enchanté, ouvert 24 heures sur 24, de Walmart.
Comme le magicien, hein ?
Ok.
T'as une pièce d'identité, Merlin ?
Le garçon glissa la main dans sa poche arrière et en sortit un portefeuille bon marché en daim. Aux coutures usées, un cadeau de sa mère pour ses 8 ans. À cette époque, ils n'étaient que tous les deux, et le monde avait un sens. Le portefeuille contenait un billet de $5 et 2 billets d'$1. Du compartiment dans lequel il conservait quelques photos de sa mère, il sortit une carte plastifiée avec sa photo.
Association des jeunes chrétiens de Poughkeepsie, lut le policier. Tu viens de l'État de New York ?
Oui, monsieur.
Le monsieur était une chose que son beau-père lui avait fait entrer dans le crâne très tôt.
« Tu es de Poughkeepsie ?»«
Non, monsieur. Juste à côté, une petite ville qui s'appelle Spuytenkill. Ça veut dire le lac qui jaillit. Du moins, c'est ce que ma mère m'a dit. »
« Oh, intéressant. On en apprend tous les jours. Depuis combien de temps t'as fichu le camp de chez toi, Merle ?»«
Bientôt 3 mois, je crois. »
« Et qui t'a appris à conduire ?»«
Mon oncle Dave, dans les champs. Je suis un bon conducteur. Boîte manuelle ou automatique, ça change rien pour moi. Mon oncle Dave est mort d'une crise cardiaque. »
Le flic réfléchit en tapotant l'ongle de son pouce avec la carte plastifiée. Ça ne faisait plus toc-toc-toc, mais tic-tic-tic. Dans l'ensemble, Merle le trouvait sympa. Jusqu'à maintenant.
« Un bon conducteur, tu dis ?»«
Sûrement. »
Pour aller de New York jusqu'à ce trou du cul poussiéreux de ville frontière. Combien de voitures t'as volé, Merle ?
3, non, 4. Celle-ci, c'est la 4e. Mais la première, c'était une camionnette, celle de mon voisin.
4 ? Répéta le flic en considérant le gamin crasseux qui se tenait devant lui. Et comment t'as financé ton expédition vers le sud, Merle ?
Hein ?
Comment t'as fait pour manger ? Où tu as dormi ?
Je dormais dans les voitures la plupart du temps, et j'ai volé de l'argent.
Il baissa la tête.
Dans des sacs à main. Des fois, les femmes me voyaient même pas, et sinon, je cours vite.
Il sentit venir les larmes. Il avait un peu pleuré au cours de ce que le flic appelait son expédition vers le sud, la nuit surtout. Mais ses larmes ne lui avaient apporté aucun soulagement. Celle-ci, oui. Merle n'aurait su dire pourquoi. Et il s'en fichait.
« 3 mois, 4 voitures, »
dit le flic. « Tic, 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 » faisait la carte plastifiée de Merle.
« Qu'est-ce que tu fuis, fiston ?»«
Mon beau-père. Et si vous me renvoyez chez ce fils de pute, je foutrai le camp de nouveau, à la première occasion.
» Je vois le tableau. « Quel âge as-tu réellement, Merle ?»«
12 ans. » Mais j'en aurai 13 le mois prochain.
12 ans. Merde alors. Tu vas venir avec moi, Merle. On va décider ce qu'on va faire de toi.
Au poste de police de Harrison Avenue, en attendant l'arrivée d'une personne des services sociaux, on photographia Merle Cassidy, on l'épouilla et on releva ses empreintes. Celles-ci furent aussitôt diffusées. Simple routine. 11. Quand Ralph arriva au poste de police de Flint City, beaucoup plus petit, avec l'intention d'appeler Deborah Grant avant d'emprunter un véhicule de patrouille pour se rendre à Cap City, Bill Samuels l'attendait. Il avait mauvaise mine. Même son épi était retombé.
« Un problème ?» demanda Ralph. Il voulait dire « Encore un problème ?»
Alec Pellet m'a envoyé un texto, avec un lien.
Il ouvrit sa mallette, en sortit son iPad, le plus gros, évidemment, le modèle Pro, et l'alluma. Il tapota 2 fois sur l'écran et le tendit à Ralph. Le texto de Pellet disait « Êtes-vous sûr de vouloir inculper Terence Maitland ? Regardez ça avant. » Le lien était dessous. Ralph se connecta. Apparut alors le site de Channel 81. Sous la rubrique « Information publique de Cap City » figurait un ensemble de vidéos. Des séances du conseil municipal, la réouverture d'un pont, un tutoriel intitulé « Votre bibliothèque et comment l'utiliser », un reportage sur les nouveaux arrivants du zoo de Cap City. Ralph regarda Samuels d'un air interrogateur.
« Faites défiler. »
Ralph s'exécuta et tomba sur une vidéo intitulée « Harlan Coben s'adresse au professeur d'anglais des 3 États ». L'icône « Play » se superposait à une femme à lunettes aux cheveux si laborieusement laqués qu'on aurait pu les frapper à coups de batte de baseball sans atteindre le crâne. Elle se trouvait sur une estrade. Derrière elle apparaissait le logo du Sheraton. Ralph passa en mode plein écran.
Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Joséphine McDermott, présidente cette année de l'Association des professeurs d'anglais des 3 États. C'est pour moi une joie immense d'être ici et de vous accueillir officiellement pour notre rencontre annuelle des grands esprits. Agrémenté, évidemment, de quelques boissons pour adultes.
Cette plaisanterie déclencha des rires polis.
Cette année, le nombre de participants est particulièrement élevé, et même si j'aimerais croire que cela est dû à ma charmante présence...
Nouveau rire poli.
Je pense que la raison est plutôt à rechercher du côté de notre prestigieux invité.
Maitland avait raison sur un point, commenta Sam Wells. Cette foutue introduction n'en finit pas. Ensuite, elle cite quasiment tous les bouquins que ce type a écrits. Ça dure 9 minutes et 30 secondes.
Ralph fit glisser le curseur sous la vidéo, sachant déjà ce qu'il allait voir. Il ne voulait pas le voir, et en même temps si, avec une sorte de fascination impossible à nier.
Mesdames et messieurs, veuillez réserver un accueil chaleureux à notre invité d'honneur, Monsieur Harlan Coben.
Arriva alors d'un pas décidé, un individu chauve, et si grand que lorsqu'il se pencha pour serrer la main de Mademoiselle McDermott, on aurait dit un adulte saluant une fillette qui aurait enfilé la robe de sa mère. Channel 81 avait jugé cet événement suffisamment important pour se fendre de deux caméras, et l'image montrait maintenant le public debout pour accueillir l'écrivain. Et là, autour d'une table sur le devant, il y avait trois hommes et une femme. Ralph sentit son estomac plonger en chute libre. Il mit sur pause. « Nom de Dieu !» dit-il. « C'est lui. Terry Maitland, avec Rand Hill, Quaid et Grant. »
« Compte tenu des preuves dont nous disposons, » répondit Sam Wells, « je ne vois pas comment c'est possible, mais c'est foutrement ressemblant, en effet. »
« Bill !» L'espace d'un instant, Ralph demeura abasourdi. « Ce type a coaché mon fils. Ce n'est pas juste ressemblant, c'est bien lui. »
« Coben parle pendant une quarantaine de minutes. On le voit surtout lui, sur l'estrade, mais parfois il y a des plans sur le public, en train de l'écouter religieusement ou de rire à l'une de ses remarques. Et je dois avouer qu'il ne manque pas d'humour. Maitland, s'il s'agit bien de lui, apparaît presque à chaque fois. Mais le coup de grâce survient aux alentours de la 56e minute. Allez-y directement. »
Ralph s'arrêta à la 54e minute pour ne rien manquer. Coben répondait à des questions provenant de l'assistance.
« Dans mes livres, je n'emploie jamais de grossièreté gratuitement, »
disait-il.
« Mais dans certaines circonstances, cela me semble totalement approprié. Un homme qui se donne un coup de marteau sur le pouce ne s'écrie pas « Oh mince !»
Rire dans le public.
« J'ai le temps de prendre encore une ou deux questions. Vous, monsieur ?»
L'image passait de Coben au nouvel intervenant. Terry Maitland, en gros plan serré. Le dernier espoir de Ralph, à savoir qu'ils avaient affaire à un double, comme l'avait suggéré Gianni, s'envola.
Lorsque vous vous installez à votre table de travail, monsieur Coben, savez-vous toujours qui est le coupable, ou bien êtes-vous surpris vous aussi?
Retour sur l'écrivain, tout sourire.
Voilà une très bonne question.
Avant qu'il puisse fournir une très bonne réponse, Ralph revint en arrière, au moment où Terry se levait pour prendre la parole. Il scruta l'image pendant 20 secondes, puis rendit l'iPad au procureur.
« Pof !» fit Samuels. « Tout part en fumée. »
« Il reste encore l'analyse d'ADN, » dit, ou plutôt, s'entendit dire Ralph, car il était comme séparé de son corps. « Voilà sans doute, » songeait-il, ce que ressentaient les boxeurs avant que l'arbitre arrête le combat. « Il faut encore que j'interroge Deborah Grant. » Et après cela, je me rendrai à Cap City pour faire un boulot d'enquêteur à l'ancienne. Bouge ton cul et va frapper aux portes, comme disait l'autre. Je vais interroger le personnel de l'hôtel et du Brasero, le restaurant où ils sont allés dîner. Puis, repensant à sa conversation avec Gianni, il ajouta « Je vais tenter également de relever quelques indices scientifiques. »
« Avez-vous conscience que c'est quasiment impossible dans un grand hôtel comme celui-ci, presque une semaine après le jour en question ?»«
Oui. »
Quant au restaurant, peut-être même qu'il ne sera pas ouvert.
Samuels se comportait comme un enfant qu'un gamin plus grand a poussé sur le trottoir et qui s'est éraflé le genou. Ralph commençait à s'apercevoir qu'il n'aimait pas beaucoup ce type. Il lui apparaissait de plus en plus comme un dégonflé.
Il est situé près de l'hôtel. On peut donc penser qu'il sera ouvert à l'heure du déjeuner.
Le procureur secoua la tête, les yeux toujours fixés sur l'image figée de Terry Maitland.
« Même si on obtient une confirmation avec l'ADN, ce dont je commence à douter, vous faites ce métier depuis assez longtemps pour savoir que les jurés condamnent rarement un accusé en se fondant sur l'ADN et les empreintes digitales. Le procès O.J. Simpson en est la parfaite illustration.
Les témoins occulent.
Gold va les crucifier. Stanhope, vieille et à moitié sourde. Est-il vrai que vous avez rendu votre permis de conduire il y a 3 ans, Madame Stanhope? June Morris, une gamine qui a vu un homme ensanglanté de l'autre côté de la rue. Scowcroft avait bu, et son copain aussi. Claude Bolton a été condamné pour possession de drogue. Votre meilleur témoin, c'est Willow Rainwater. Et j'ai un scoop pour vous, mon vieux. Par ici, les gens n'aiment pas trop les Indiens. Ils s'en méfient.
On est allé trop loin pour reculer.
Triste vérité.
Ils demeurèrent silencieux. La porte du bureau de Ralph était ouverte et la salle principale du poste quasiment déserte, comme souvent le dimanche matin dans cette bourgade du sud-ouest. Ralph faillit dire à Samuels que cette vidéo les avait brutalement éloignés de l'élément principal. Un enfant avait été assassiné, et d'après toutes les preuves qu'ils avaient rassemblées, ils tenaient le coupable. Le fait que Maitland semblait se trouver à 120 km de là était une chose qui méritait d'être clarifiée. Pas question de baisser les bras.
Accompagnez-moi à Cap City si vous voulez.
Impossible, répondit le procureur. J'emmène mon ex-femme et les enfants au lac Okoba. Elle a préparé un pique-nique, on s'est enfin réconciliés et je ne vais pas risquer de tout gâcher.
Ok. Ralph avait fait cette proposition du bout de la lèvre de toute façon. Il préférait être seul. Pour essayer de comprendre comment ce qui paraissait si évident prenait désormais l'apparence d'un colossal désastre. Il se leva. Bill Samuels rangea son iPad dans sa mallette et se leva à son tour.
On risque de perdre notre boulot sur ce coup-là, Ralph. Et si Maitland est innocenté, il nous intentera un procès. Vous le savez.
Allez à votre pique-nique. Mangez des sandwichs. Ce n'est pas encore terminé. Samuels quitta le bureau le premier. Et quelque chose dans sa démarche, les épaules tombantes, la mallette qui pendait au bout de son bras, provoqua la colère de Ralph.
Bill!
Samuels se retourna.
Un enfant a été sauvagement violé dans cette ville. Avant cela ou juste après, il a été mordu à mort. J'essaie encore de comprendre. Vous croyez que ses parents se soucient de savoir si on va perdre notre boulot ou si la municipalité va être attaquée en justice?
Samuels ne répondit pas. Il traversa le poste désert et sortit dans le soleil du petit matin. Une journée idéale pour un pique-nique. Pourtant, Ralph devinait que le procureur n'allait pas beaucoup en profiter.